France Inter, franceinter.com.
Le fou du roi.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi. Avec nous ce matin, Didier Gustin.
Bonjour.
Frédéric Martin.
Bonjour.
Agnès Michaud. Bonjour. Julia Verne.
Bonjour.
Entourant Eric Neuhoff. Au menu de l'émission, nous recevrons dans un instant la chanteuse, la divine chanteuse que devrais-je dire, Elena Noguera. Pour son nouvel album Fraise Vanille, nous entendrons également Paul Persson et Hubert Félix Thiéfaine.
Oui, un beau programme, ensemble, c'est
À midi 5, Didier Porte, et ensuite la chronique sportive du vendredi de Daniel Morin. Enfin, c'est pas trop sportif, c'est plus chronique que sportif, hein, je le dis pour l'invité. Avec nous également, Franck Gélibert, pardon, au piano. Je vous le dis en toute confidence, son éditeur a dû supplier cet écrivain discret qui a publié certes 60 livres, dont certains remarquables ne lui en déplaisent, pour qu'il consente enfin à parler de lui et qu'il accepte de publier ses mémoires. Il est vrai que cet ascète, refusant de s'exhiber comme tant d'autres sur les plateaux de télévision, n'a jamais cherché les feux de la rampe et a toujours fait preuve d'une étonnante modestie, refusant de dire du bien de ses romans, voire même de citer de manière complaisante les dédicaces plateuses des grands hommes qu'il a croisés sur sa route. C'est aussi par modestie sans doute que dans son livre, il préfère ne pas aborder trop à fond sa période Mao, lui qui a basculé dans un jeu d'allégeance alternative dans la poche de Mitterrand avant de rallier Balladur, puis Ségolène Royal en même temps que Benoît XVI allait comprendre.
Et Adolf Hitler, Mussolini, Staline.
Vous l'avez reconnu, celui que l'on surnomme parfois l'Ulysse Bordelais, petit joyau de Gironde, matiné de Vénitien.
Il
publie ses mémoires, c'est un vrai roman. C'est Philippe Soler, c'est notre invité. Ouais.
Stéphane aussi inspiré.
Ah, il m'inspire, Philippe Soler.
Et d'ailleurs, il faut ajouter tout de suite que le fait que j'aille chez Stéphane Bern est très mal pris.
C'est très mal pris. Dans l'Express.
Il est infâme que quelqu'un puisse à la fois lire Bossuet, vous avez lu ça, et aille chez Stéphane Bern, si lire Bossuet devait interdire d'aller chez Stéphane Bern, et comme si tout le monde chez Stéphane Bern ne lisait pas Bossuet. Or, tout le monde lit Bossuet ici. Voilà.
Et Bossuet n'avait rien contre Stéphane Bern.
Non, l'Express est devenu un torchon, il faut bien le dire.
Je reconnais que c'était le titre, c'était Bossuet chez Stéphane Bern.
C'est flatteur.
Oui, c'était flatteur. En même temps, ça voulait dire c'est ce qui est le plus indigne.
C'est un peu idiot, surtout.
Oui, c'est vrai que ce livre aurait pu, vous avez raison Stéphane, s'intituler « Moi, Philippe Joyau, un vrai trésor
». Ou alors « Le musée Guillemet
». Parfait chinois.
Mais alors, il y a des surprises.
Il y a des surprises, oui. Alors Agnès...
Effectivement, non, mais c'est un peu embêtant d'en parler, parce qu'effectivement il y a une satisfaction de soi que je ne juge pas. C'est pas dans mon caractère. Et effectivement, vous citez des dédicaces d'auteurs célèbres. Et moi, ça me gêne toujours un petit peu. Mais bon, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Surtout que tout le monde ne les a pas. Voilà.
Exactement. Et il y a des surprises émouvantes. Le seul reproche, je reviendrai plus tard sur la surprise émouvante, vraiment, qui m'ont vraiment émue. Mais vous vous arrêtez parfois là où on aurait envie que vous développiez. Par exemple, quand vous parlez de la brouille avec Francis Ponge, poète, hein, pour nos auditeurs les plus jeunes qui n'auraient pas lu. On apprendrait beaucoup de vous et beaucoup de Francis Ponge, à savoir, même si c'est sur une futilité, pourquoi un jour vous êtes envoyé des injures à la figure et que vous êtes brouillé.
Oui, ben alors voyez-vous, là, si je développais, comme vous dites, c'est gentil d'ailleurs de penser que je pourrais développer, nous développerons peut-être tout cela ensemble, si vous voulez.
Sébastien.
Si je développais, ça ferait un livre alors de 2000 pages, déjà avec 350, on me reproche de les avoir écrites, alors vous vous rendez compte.
Mais ce qu'il y a chez vous, qui est un peu la même chose que cette satisfaction.
Faut aller vite, quoi.
Quand on écrit ses mémoires, il y a un moment, c'est bien de s'arrêter. Vous êtes un écrivain malade, en fait. Vous avez été souvent malade. Oui. Vous avez eu beaucoup d'otites. Et c'est très intéressant. Mais oui. Moi, ça me fait penser au début dans
Mais attendez, développez un peu, parce qu'il faut, il faut que le public soit ému.
Justement.
En effet, je suis un grand malin.
Mais
je me suis surmonté, vous
voilà
comprenez.
Et ben, ouais.
Non, mais vous voyez, moi, ça me fait penser au début des Carnets du sous-sol. J'ai une maladie du foie. Ben, c'est important pour le personnage.
Absolument.
Oui, sauf que vous apportez...
J'aimerais beaucoup qu'on en parle.
Moi, je trouve que sur la maladie, justement, alors. On vous comprend, parce que vous dites, je tombe malade, mon corps a ses raisons. Je trouve qu'on comprend bien justement votre façon d'être. C'est-à-dire que vous êtes là, vous acceptez la maladie, oui. Vous dites je suis née, j'ai décidé de faire la grève assez tôt, donc vous tombez malade. Et on sent bien justement cet optimiste en même temps et ce refus de vous laisser aller dans...
Oui, c'est le bon usage des maladies, c'est-à-dire, voyez ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte tout de suite que je ne voulais pas être comme les adultes qui m'entouraient. Et alors les adultes au-delà, c'était vraiment pour moi impossible de vivre comme eux, d'être comme eux. Donc je me suis arrangé, en effet, ça s'est passé très simplement, pour être presque tout le temps malade, ce qui fait que, premièrement, ça me permettait d'être seul dans un endroit protégé. Deuxièmement, de ne pas aller à l'école. J'ai séché à peu près toutes mes études, j'ai recopié très vite des trucs de copains, je ne sais même pas comment j'ai fait. Et puis ensuite, de prendre les adultes en otage, parce que si vous êtes malade, vous pouvez devenir exigeant, c'est-à-dire vous faire offrir ceci, cela, avec des petites crises. Non, c'est du bon usage des maladies. Alors, ils étaient tous en bonne santé, mais pour faire quoi ? Rien. Tandis que moi, pendant que j'étais malade, oulala, la poésie, germé en moi.
Mais oui, non, mais vous avez
et vous
raison,
vous posez la question, comment ai-je fait sans rien faire pour poursuivre des études plutôt correctes ?
Oui, c'est ça.
Ne jamais redoubler.
Ne jamais redoubler.
Et vous retrouver à l'ESSEC.
Que j'ai quitté aussi, parce que j'ai toujours été renvoyé, en fait.
Ah, finalement, oui.
Oui. J'ai été renvoyé, mis à la porte presque partout. C'était d'ailleurs mon désir le plus fort. D'être renvoyé.
Votre vrai désir, c'était de faire le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour
alors
amuser
ça,
les filles.
J'ai l'écriture des professeurs, esprit frondeur,
oui.
Passerait très dissipé, passerait son temps à se promener en études, fait le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour amuser les filles.
Alors, chez Gallimard aussi, vous continuez ?
Tout à fait. C'est connu, c'est archivé.
Mais vous avez gardé...
Il y a même des vidéos.
Mais ce qui m'a impressionné, moi, vous avez gardé tous ces documents, les mots de vos professeurs
tout. Absolument, tout ça sera à la Bibliothèque nationale de France.
Au Panthéon, dans la
Pléiade. Lors de la grande exposition qui me sera
quand on saura encore lire, voilà. Si on sait encore lire. Non, mais c'est vrai, vous avez gardé tous ces documents,
les plus drôles en tout cas.
Les plus drôles.
Le chimpanzé, c'était quand même à garder. Donc,
voilà. Mais alors, quand votre maison d'enfance, par exemple, est détruite, vous dites que c'est un triomphe.
Parce que comme ça n'appartiendra pas à d'autres. Et donc ça a été rasé. C'est une magnifique maison avec une particularité parce que deux frères épousent deux sœurs, vivent dans deux maisons symétriques où chaque pièce d'une des maisons répond à chaque pièce de l'autre. Les chambres à coucher séparées par un mur. C'est quand même un climat étrange avec un grand parc. Bon. Alors c'est des industriels, ils ont fait faillite. Et donc tout ça a été rasé. C'est maintenant un supermarché que j'ai visité une fois pour écrire dans un roman.
Qu'est-ce qu'il y a comme livre au rayon ?
Il n'y a rien. Il n'y a pas de livre.
Non, mais donc voilà. Vous êtes
il y en avait beaucoup chez moi, mais j'étais très surpris de voir que les adultes ne s'en servaient jamais. Donc c'était ma propriété. Ils ne lisaient rien. D'ailleurs, ils lisent. C'est le fond du problème. Qui lit quoi encore ? Oh là là. Bon,
vous dites que la littérature. Non, parce qu'il y a des choses aussi très intéressantes dans votre livre. Pas seulement les choses qui vous concernent, même si on peut.
La littérature est toute ma vie.
Et vous dites que la littérature est menacée de disparition.
Je crois, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Je suis en train de lire, je vous le conseille d'ailleurs à tous, de lire le tome 5 de la correspondance générale de Flaubert. C'est tout à fait extraordinaire. Il se plaint constamment de la bêtise qui l'entoure. Il y a cette phrase merveilleuse, la bêtise m'écrase au point que je me sens comme une mouche portant sur son dos l'Himalaya. Vous imaginez, c'est ça. Et alors, il parle tout le temps de la sacro-sainte littérature. Il se prend lui-même pour un saint. C'est un saint. Il ne pense qu'à ça. Alors, autour de lui, il n'y a qu'ignorance, que bêtise terrible. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La bêtise, c'est le grand sujet, la bêtise. Voilà. Et donc, en effet...
Et vous vous sentez comme Flaubert en son temps ?
Ben, écoutez, oui, comme beaucoup de gens, très isolés. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que pour briser cette solitude effrayante...
Vous sortez de temps en temps.
Je vais chez Stéphane Bern, le nom de Dieu. Voilà, ça me détend, je suis ravi de vous voir.
Amenez Bossuet la prochaine fois.
Il est là. Je l'ai en duplex.
Nous sommes encore une des rares émissions. Nous sommes encore une des rares émissions à savoir qui est Flaubert.
Oserais-je ouvrir un cercueil devant la cour? Voilà. Ah, c'est du grand Bossuet.
Ah,
et alors, vous voyez, ce type avait du talent, de pas, oui. Il surplombait tout le monde, les rois, les maîtresses, les courtisans, et il leur parlait de la mort. Oserais-je ouvrir un cercueil devant la cour? Vous voyez tout de suite, oui. Amenez-moi un cercueil, je
et
vous fais Bossuet.
Mais vous en parlez, vous parlez de votre mort dans le livre.
Oui. Vous espérez
je dis où je serai enterré. C'est oui. un endroit d'ailleurs délicieux. C'est dans l'île de Ré, c'est dans un petit cimetière. Et ma tombe est prévue tout près d'un carré de... Ah, c'est très émouvant.
Et à quel âge vous avez commencé?
D'un carré d'aviateurs, vous savez, qui sont morts là en 1942, qui viennent tous. Les corps n'ont pas été réclamés. Ils venaient tous d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Oui. Ils ont 22 ans. Ils se sont fait abattre au-dessus de l'île de Ré pendant que les Allemands rasaient les maisons. Là encore, les
donc tout ça, vous l'avez écrit, vous l'avez écrit parce que vous dites, j'espère, j'accepte comme prévu qu'on enterre mes restes au cimetière d'Ars-en-Ré, qui deviendra, je le suppose, Solaire sans Ré après votre mort.
C'est Solar sans Ré, oui.
Ça sonne bien.
Vous ne voulez pas être enterré à côté de Madeleine Chapsal?
Je ne sais pas de qui vous parlez.
De qui vous parlez.
Qui est cette dame? Mais l'ultime consécration, c'est la Pléiade.
Je préfère les anonymes. J'adore l'idée de corps. J'adore l'idée de corps non réclamés. Hein, vous savez que si vous allez de l'autre côté de la planète, là, tout de suite, vers la verticale, vous savez où vous débouchez? Aux antipodes.
Oui.
Quelqu'un le sait?
Mais
personne.
Vous allez nous le dire.
Oh, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, exactement, à l'instant même où nous parlons. Alors voilà des pilotes qui sont venus mourir là, pour se battre.
Enfin, corps non réclamé, c'est valable pour la mort, mais dans votre vie, on vous a beaucoup réclamé.
C'était beaucoup, c'était probablement trop cher pour les familles.
Je vous propose de poursuivre en musique. Nous recevons Hubert Félix Thiéphen et Paul Persson. Ces deux icônes étaient parties pour composer et écrire pour Johnny Hallyday. Et finalement, ben voilà, ils ont décidé de faire un album ensemble. Le poète Hubert Félix s'est pris dans les cordes de Paul l'espace d'un été. Paul Persson délivre alors de puissantes mélodies à Thiéphen qui posent ses amères et douces mélancolies. Dans leur album Amicalement Blues, ils choisissent la force des textes, la pureté du son, l'intimité, l'envie d'être ensemble. Et Avenue de l'amour, c'est le titre qu'ils viennent nous interpréter ce matin en direct dans le Fou du Roi. Voici Hubert Félix Thiéphen et Paul Persson.
Chagrin et tout ce blues. n'étions que des survivants. Nos histoires noires, nos nuits blanches, plantées en plein manque de tout, cherchant le jour, avenue de l'amour.
Merci Hubert Félix Thiéfaine et Paul Person. Je vous rappelle le titre de leur album, Amicalement Blues. Toutes les informations les concernant sont sur le site du Fou du Roi, sur franceinter.com et sur leur propre site amicalementblues.fr. Nous sommes évidemment toujours avec Philippe Solers qui publie un vrai roman, bah c'est un peu l'avenue de l'amour, un vrai roman, c'est-à-dire ses mémoires, puisqu'il avait toujours dit un vrai roman c'est un livre qui se lit comme on regarde un film, et en voici un, mais il s'agit de mon existence réelle, c'est publié chez Plon. Nous retrouvons tout de suite Frédéric Martin.
Un poète.
Je vais vous raconter une histoire incroyable. J'étais chez des amis, porte de la Muette. Juste avant le dessert, je me lève de table et demande poliment où se trouvent les toilettes. Dans une salle de bain, au curieux carrelage, je sors de ma braguette, mon sexe en col Mao. Oh, oh, oh. Je tire la chasse, je me retourne, et là j'ai un blocage. Je vois d'autres WC. Imaginez le tableau. Deux toilettes en face à face, et rien pour séparer. D'abord je trouve ça classe, ensuite je trouve ça fou. J'imagine mes amis dans leur intimité. Poussons, joue contre joue. Poussons, joue contre joue. Tiens, envoie-moi le PQ. C'est toi qui as fait ce bruit. Après 10 ans de couple, il n'y a plus de tabou. Et c'est entre deux ploufs qu'ils se racontent leur vie. Poussons, joue contre joue. Poussons, jour contre jour. De retour à la table, je ne sais plus où m'asseoir. Je suis déboussolé, indigestif m'attend. Je regarde mes amis, je me dis c'est des barbares. Et là je me souviens qu'en plus ils ont des enfants. J'ai une vision d'horreur, est-ce qu'ils font ça ensemble? En couple c'est leur problème et avec leur morveux. Mon âme se liquéfie et tout mon corps en tremble. Et j'imagine la scène où ils font ça entre eux. Viens, découvre avec papa les plaisirs démodés. T'as eu un 4 en maths, mais c'est pas bien du tout. Ah tiens, voilà ta mère, elle va prendre le bidet. Poussons, joue contre joue. Poussons, joue contre joue. D'un côté il y a l'odeur, mais dissocié du bruit. Check les rhinocéros, même s'ils sont pas comme nous, communiquent via leur selle pour se raconter leur vie. Pardon, mais ça me rend fou. Pardon, mais ça me rend fou. Non mais c'est vrai, c'est des malades, c'est juste l'intimité quoi. Moi en général aux toilettes je lis des livres, D'ailleurs j'ai beaucoup aimé votre dernier ouvrage Philippe. Il est juste un peu long, 350 pages. Je suis resté au cabinet 2 jours. Voilà. Sinon j'aimerais dire que les toilettes de Radio France sont bien mais un peu trop modernes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une lunette et sur la lunette il y a un film en plastique. Et quand on appuie sur le bouton, ben ça change de film en plastique. Comme ça. Comme ça c'est plus hygiénique. Moi je me suis d'abord assis, ensuite j'ai appuyé sur le bouton et paf, je me suis pris le mur. Bon appétit.
Frédéric Martin. C'était affligeant, faut bien le dire, j'ai détesté. Elle est à chier votre chronique. Si je puis me permettre, Frédéric.
Pardon.
Non, elle passe pas. Voilà, on peut aller voir Frédéric Martin sur scène tous les
deux. Il faut consulter.
Oui, là, je crois qu'il est malade.
D'abord, il faut consulter. Et ensuite, il y a quand même un magasin merveilleux près de chez moi que je vous indiquerai sur l'hygiène japonaise. Élégance suprême.
Alors, on peut aller voir Frédéric Martin tous les dimanches et lundis à 20h15 à la Comédie de Trois Bornes à Paris.
Et on vous récite du Solaire dans
l'oreille. Dans l'oreille. Très bien.
Oh, vous savez, de Jonathan Swift dans Le Voyage de Gulliver, les You and Him, c'est un petit peu.
Voilà. Mais au fond, comment ça vous a pris un matin de vous dire voilà, je vais écrire sur ma vie, Philippe?
Oui. Eh bien, écoutez, je trouve que ma vie a un certain intérêt, du moins pour moi.
Mais vous avez pensé qu'elle en avait aussi pour les autres.
Je voudrais revenir un peu sur ce que madame a dit tout à l'heure. Oui, je vais développer un peu. Être satisfait, non, ce n'est pas le mot satisfait qui convient, excusez-moi. C'est le fait de se mettre devant la chose suivante, qui est, à mon avis, qui doit arriver à tout le monde un jour ou l'autre. C'est, est-ce que je revivrai ma vie exactement de la même façon, hein, pour l'éternité? C'est ce que Nietzsche appelle l'éternel retour, excusez-moi d'amener ce penseur admirable. Est-ce que je revivrai ma vie de la même façon, obstacles, souffrances, douleurs, maladies, gaieté, clairière, amour, etc., ou pas? Voilà, c'est ça, donc je réponds,
et, dans le livre,
et moi je dis oui. Or, c'est pas évident de dire oui, est-ce qu'on revivrait sa vie? La plupart des gens, à mon avis, préfèrent se résigner à disparaître, à mourir. Il y a une grande envie de mourir, en général. Il y a une grande dépression, vous ne trouvez pas, moi je trouve. Je vois beaucoup de gens qui ne souhaiteraient plus revivre leur vie, voilà. D'autant plus que, et parfois, ils sont dans le besoin réel. Mais, moi, j'approuve tous les mouvements sociaux qui pointe le doigt sur la misère. Et en effet, je suis un privilégié. Alors maintenant, quant aux dédicaces, il faut faire un tout petit peu d'histoire malgré tout. C'est pas par vanité. C'est pas par vanité. Non, parce que je crois que c'est un certain intérêt. Ce sont les dédicaces, les gens qui m'ont fait ça, qui m'importent. C'est pas les dédicaces. Alors il se trouve que j'ai rencontré en effet beaucoup de gens très très intéressants.
Moria, voilà, Caragon, André Breton qui vous touche.
Alors Breton, c'est vrai, c'était vraiment pour moi à l'âge de 15 ou 16 ans l'admiration absolue. Alors, c'était le surréalisme, c'était Breton. Alors c'est vrai, la dédicace que quand je reçois, il aimait bien mon premier livre, on s'est vu deux trois fois. Breton, mais Breton, c'était vraiment, c'est une sorte de dieu.
Aimé des fées.
Et alors il m'envoie la réédition des Manifestes du surréalisme au début des années 1960. Ah, machin, c'est moi. oui. Aimé des fées, F-E-E-S. Bon. Alors, signé André Breton. Mais vous voyez, c'est pour moi, c'était une
mais chose. Mais j'imagine que c'est.
C'était une chose merveilleuse. Bon, puis Mauriac, Breton, Aragon, qui lui aussi, enfin, me dédicace. Il a compris, Aragon, que, en effet, il voulait Mauriac, tout ça, Breton, Aragon. Il voulait revivre leur jeunesse. Il trouvait que l'époque où ils étaient était terrible. Il voit arriver un garçon.
Vous étiez leur jeune homme, un peu.
Oui, j'étais un peu. Comme si j'allais rallumer le flambeau, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc,
modestement, en toute modestie.
Oui, mais non, pas du tout modestement, il n'y a aucune raison d'être modeste, ce sont des faits historiques.
Oui.
Voilà.
Donc,
j'ai réussi à foutre un certain bordel dans la littérature française.
Mais vous continuez.
Il disait une curieuse solitude, c'était pas mal du tout.
Oui. Écoutez, là, voilà, il y a eu de grands articles, en effet. J'ai 21 ans.
Il y a vraiment de très bonnes pages. Alors, il y a des pages. Évidemment, la polémique, vous la relancez, cher Philippe. C'est page 57, parce que vous partez d'une idée qui est intéressante, évidemment.
Qui sera développée.
Montre-moi ton enfance et ton adolescence, je te dirai qui tu es.
Et c'est exactement.
Vrai fond,
voilà.
On tourne toujours autour de cette idée qu'on ne guérit jamais de son enfance. Vous parlez de Günter Grass, dont on va parler dans un instant.
Bien sûr. D'abord, je crois que tout se joue
dans. Écrivain quoi, Mina vient écrire dans le livre.
Je crois que tout se joue en effet dans l'enfance et que la plupart des adultes, même la grande majorité des adultes, sont des enfants ratés. Ce qui leur donne d'ailleurs une curieuse attitude par rapport aux enfants en général, une sorte de ressenti. Ils se vengent beaucoup sur les enfants. Les pédophiles, par exemple, sont des enfants ratés qui veulent satisfaire quelque chose.
Qui eux-mêmes ont été martyrisés dans leur enfance.
Donc, etc. Toute la mécanique de reproduction désormais autour de l'enfant, du désir d'enfant, etc. Vous aviez récemment, dans Libération, une enquête sur un gynécologue violeur, qui est très intéressant, parce qu'on voit à quel point là, il peut y avoir une oppression, une prise en main des femmes sur ce désir fondamental. Voilà, l'enfance, tout se joue. Alors, moi, je pense, là, je m'attarde un peu, que j'ai eu d'enfance un peu enchantée, comme ça, dans une grande perturbation, parce que c'était quand même pendant la guerre. Avec les Allemands qui avaient déboulé dans Bordeaux, etc.
Bon. Alors, à propos d'un Allemand, vous parlez de Günter Grass, qu'on se pose la question toujours, comment ses engagements à 17 ans.
Alors, à 17 ans, je dis, la chose est très simple, n'est-ce pas? Il faut que chacun, tous les responsables, disent qui ils avaient envie de baiser, à part eux-mêmes, ce qui est souhaitable d'ailleurs, à l'âge de 17 ans. Voilà. Donc, s'engager dans les Waffen-SS, de façon plus ou moins, je ne sais pas, engagé de façon militante, il a voulu échapper à sa famille, il est rentré dans les SS.
C'est
exactement comme si moi, à 17 ans, j'avais eu l'idée de m'engager dans les parachutistes pour animer un petit peu la gégène, la torture en Algérie, vous voyez. Ce qui ne me serait pas vraiment venu à l'idée. Parce que
ça a failli vous arriver à cause de Jean Eder.
Non, ce qui a failli m'arriver, c'est que je crève dans les hôpitaux militaires. C'est autre chose, c'est exactement le contraire. Donc, voilà. Donc, j'ai mis 3 mois assez difficiles à obtenir une réforme. Je ne voulais à aucun prix faire cette guerre. Donc, il y a là, je trouve qu'à 17 ans, on est parfaitement animé de certains désirs.
Il y a parfois des tilleuls verts sur la promenade.
Günter Grass, il avait envie de baiser des militaires, point. Voilà. Et ben pas moi.
Et ben voilà. Voilà.
Je ris en passant,
écrivez-vous dans un sous-marin.
Je ris en passant, écrivez-vous des révélations de ce médiocre écrivain allemand Günter Grass, ouais. Prix Nobel de littérature, avouant qu'il était
vapeur. Grande conscience social-démocrate, oui, pendant très longtemps.
Oui.
Mais d'ailleurs.
Tout à coup, ça sort. Il est très âgé. Les écrivains vieillissants sortent parfois des choses.
Peut-être qu'à 90 ans, vous allez publier des choses indignes.
Non, parce que je laisse ça. Il y a Rob Grier qui s'occupe de ça. Il a 45 ans. Il vient de publier un livre absolument semblable. D'ailleurs, publié sous préservatif par son éditeur.
C'est vrai.
Et donc là, je crois quand même que membre de l'Académie française comme il est, il aurait pu s'épargner de tomber dans une telle sénilité.
Oui.
Je trouve sénile toute vieillardise qui s'accroche au sexe. Je crois quand même qu'il faut prendre tout ça avec distance.
Il y a des choses très réjouissantes dans votre livre. Vous parlez de François Mitterrand. Des portraits de femmes, évidemment, d'abord de la vôtre, celle qui vous accompagne depuis longtemps.
Oui, les mariages considérés comme un des beaux-arts. Voilà,
oui. Vous parlez de Florence, de Venise, qui sont telles des femmes que vous avez aimées passionnément depuis 1963.
Absolument. J'ai vécu incognito à Venise pendant près de 40 ans, dans un état d'extase complète. Voilà.
Et puis une chose, moi qui m'a bouleversée pour des raisons un peu personnelles, mais il y a un chapitre consacré à la sœur d'Arthur Rimbaud. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait extrêmement plaisir. Le hasard a voulu que j'ai relu Les Illuminations parce que je commençais un livre, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 13 ans.
Ben oui.
Et j'ai relu les lettres d'Isabelle Rimbaud. Et vous lui rendez un hommage mérité parce qu'il faut la considérer, on comprend mieux. Et ça, pour un adolescent, je trouve, c'est un moment, et vous avez toujours défendu Rimbaud. Voilà, là on comprend tout d'un coup comment la lecture, ça peut changer la vie. Et quand on lit Génie, qui est le dernier texte des Illuminations, la vie change.
Et vous avez remarqué que chaque fois qu'on lit les Illuminations, on les lit pratiquement pour la première fois, chaque texte. Ça arrive avec très peu.
Parce qu'on saute pas les mêmes passages à chaque fois.
Non, mais.
J'aime bien le cynisme d'Éric, moi. Ça m'enchante.
C'est
tellement. C'est ce que disait Barthes de Proust. Hein,
oui, mais Proust, c'est un peu long parfois. Tandis que Rimbaud, c'est une condensation. Moi, j'ai plusieurs éditions des Illuminations dans des typographies différentes.
J'imagine.
Et donc, ça permet de. C'est comme de la musique, c'est-à-dire ça sort avec une intensité considérable. Génie est en effet le dernier publié. Mais
alors, retrouvons maintenant Didier. Gustin.
Ah.
Salut tout le monde, c'est Chirac. Salut, ça va Berne?
Oui, ça va.
Désolé de venir vous déranger, comme je connais votre réputation d'escroc notoire. Tout le monde sait.
Écoutez, comment c'est pas
un trafic de teckel.
Mal placé pour donner des leçons. Hein.
Okay. Pourquoi? Je sais pas. Souvent, je fais des petits examens. Je me suis dit, allons voir à quoi ça ressemble un voyou quand ça n'a pas la tête de Pasqua.
C'est très bien.
Allez, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Hein? Quelle honte. Me faire ça, moi. Un pauvre fonctionnaire à la retraite. Oh, au départ, moi je ne savais pas que Xavier Simeoni, c'était un juge. Un juge avec un nom corse. C'est bizarre, c'est louche. Je me suis dit, ça doit être une poulette qui connaît ma réputation de marteau pilon et qui veut tâter de l'étalon corrézien. Ah ça, je peux vous dire que j'ai eu l'air con quand je me suis retrouvé dans son bureau avec le pantalon sous le bras et les grelots à l'air. J'ai eu l'air con. Con comme un Juppé. 2 heures plus tard, elle me dit que j'avais, soit disante, détourné des fonds publics quand j'étais à la mairie de Paris. Mais moi, l'argent public, il est à tout le monde. Donc, il est à moi aussi. Hein? Je n'ai tout de même pas détourné des fonds privés. Je ne suis pas un voleur, moi. Bref, je me retrouve donc inculpé comme un vulgaire élu de la région PACA. Et quand je lui ai dit, mais ma réputation est pensée, ma réputation, elle m'a répondu, t'auras qu'à faire la tournée des enfoirés. Alors du coup, je me suis dit que je vais suivre son conseil et en profiter pour expliquer aux élus mon programme futur. Vous allez me dire, mon cher Stéphane, ce que vous en pensez. Voilà. S'il vous plaît, la technique, on va faire un petit essai. Chèque, chèque son, chèque. Même en liquide, je préfère. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. On y va. Ah, là, là. ça pète, hein. Moi, je file la rancard à ceux qui n'ont plus rien, ceux qui se sont fait gauler, ceux qui sont pas malins. Pour acheter la justice, il faut plus de pognon, de corruption active, de fausses facturations. La 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 la. Non, c'était pas Bernadette qui devait le faire, mais oui. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut donner aux magistrats, dépasser le chacun pour soi. Pour tous les élus, un seul combat. Quand tu détournes des fonds publics, à chaque parti, tu donnes du fric. Notre liberté, notre espoir, on l'achètera avec les caisses noires. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de la jouer solo, chacun pour soi. Il faut qu'on mette tous en commun notre argent sale, nos pots de vin. Avec, on achète la justice, et puis le reste, on le planque en Suisse. La loi, c'est pour les électeurs, pour nous, l'argent et l'argent du beurre. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, faut donner plus aux magistrats. En attendant, tout ça, ça sent pas très bon. Mais je m'en fous. Chez les gaullistes, on a toujours eu le sens du panache, de la formule. Il y a 67 ans, le général de Gaulle, depuis l'Angleterre, disait « ici, Londres ». Eh bien, l'année prochaine, peut-être moi, depuis ma prison, je dirais « ici, Londres ».
Didier Gustin, qui est en spectacle à Épinal, à la Louvière, le 7 décembre, avec son spectacle En chair et en os. Philippe, on en est où avec vous politiquement, là ?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit
fais un sujet. Fais gaffe, Philippe, ton boulot.
Oui.
Je vous ai connu avec. Par Mitterrand.
Attendez, je vous parle de Lola, moi. Je crois aux forces de l'esprit.
Ah bah attendez, vous y croyez d'autant plus que Victor Hugo, Victor Hugo vous
je
parle
aux forces de l'esprit et je ne vous ai pas quitté. Attention.
Je suis là, je reviendrai.
Attendez, moi j'en peux plus de cette émission.
On ne se débarrasse pas comme ça.
Hein. Il y a des revenants.
La grande différence entre Mitterrand et Chirac, je vais vous dire, c'est que Chirac n'a jamais pu prononcer mon nom. Il me disait toujours « Bonjour cher maître ». D'abord j'ai horreur de ça. Puis là, alors, monsieur Solaire. Il n'a jamais pu prononcer le
bonjour, S Chira. À la fin. Non, c'était à gauche, alors des vaches de salaire.
Alors que Mitterrand, attention, il se mettait à lire Casanova. Il pensait que Venise était une ville habitée.
Et il pensait que chez vous, vous organisiez aussi des.
Oui, maintenant.
Il était déçu.